Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans l'épisode précédent, nous avons été plongés dans ce que l'on pourrait appeler les nouvelles donnes antisémites de la Roumanie, du fait du roi Carole qui a mis en place un premier gouvernement roumain antisémite, un gouvernement qui a purement et simplement calqué en roumain les lois raciales allemandes.
Oui, calqué, enfin, il les a fait avancer aussi. Parce qu'il n'y avait pas vraiment des lois raciales allemandes d'un caractère, je pense, aussi général. Mais enfin, vous dites, je suis un témoin privilégié, mais un témoin privilégié de quoi? Pas seulement de l'époque. Je pense qu'en parlant jusqu'ici de ma vie, j'ai peu parlé de cette communauté. De ce monde à part, de ce monde juif à part, parce que ce qui me semble, ce dont je témoigne, me semble-t-il, et ce qui me semble le plus important dans ce qui s'est passé pendant ces années de guerre, c'est cette disparition de cette communauté particulière, de ce judaïsme riche, long, douloureux, qui était le judaïsme du monde de l'Est. Et qui était à la fois un monde contrasté, vous voyez, plein de tristesse et en même temps gai, plein de tendresse, de solidarité, et en même temps de calcul, d'hostilité. Un monde comprimé et un monde libre, paradoxalement, ce sont les deux choses. Un monde plein d'idées, plein de mouvements, plein d'espoir et en même temps un monde désespéré. Et avec toutes les histoires, les mères juives, les enfants, la nourriture, enfin tout ce qu'on peut savoir de ce monde, qui était un monde juteux, je dirais, dans tous les sens du terme, et dont on a perdu je crois, même la saveur. Et parfois, si je veux encore trouver des traces de cette saveur, comme on trouve la trace des origines du monde, mais je vais à New York parce que c'est la seule ville que je connais au monde où on trouve quelque chose de cela. Et donc moi-même, ce que je témoigne et ma vie s'est inscrite dedans. Je n'ai pas vécu en dehors de ce monde jusqu'à ce que je vienne à Paris. Ça, je crois que c'est assez important. Je pense de l'époque, on peut beaucoup témoigner, mais je pense que c'est de ce monde-là que j'ai surtout... Si j'ai voulu témoigner, c'est bien de cela, parce que c'est ça qui a fait ma vie et ma personnalité, mon intelligence, mes curiosités.
Alors, la politique menée à l'époque mène véritablement à des aberrations. Et votre père, par exemple, va s'acharner à prouver qu'il est roumain, alors que, objectivement et avec le recul du temps en tout cas, on se rend compte que ça n'avait pas une grande importance.
Ça n'avait pas une grande importance, mais ça avait quand même pour lui, symboliquement, par rapport à ses parents et par rapport, à la communauté, le fait d'être roumain, de montrer qu'ils avaient des droits, était assez symboliquement importante. D'ailleurs, c'est extraordinaire quand j'y pense avec le recul du temps. Comment pouvait-on dire qu'il était autre chose puisqu'il est né sur cette terre-là, puisqu'il y avait des générations qui sont nées sur cette terre-là? Et vous voyez, c'est là où tout le problème naît. Est-ce qu'on est quelque chose, enfin, roumain ou je sais pas quoi, turc, etc., parce qu'on a des ancêtres ou parce qu'on vit, parce qu'on a une certaine nationalité? D'où souvent le fait qu'on dit, par exemple, d'un socialiste, d'un communiste, il est juif. Mais il est juif pourquoi? Par une sorte de... Parce qu'il pratique une religion? Parce qu'il est né de quoi?
Mais on sent dans votre livre que vous ne faites qu'une confiance modérée dans les lois. Et c'est vrai que celle-là pourrait être un exemple extrêmement frappant, puisqu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'aberration, c'est-à-dire qu'une loi a été dictée, et immédiatement, en bon citoyen, on l'applique et on doit donc prouver qu'on est...
Oui, mais j'ai une confiance modérée dans les lois, parce que toutes les lois que j'ai connues, au moins quand j'étais jeune, étaient contre moi. Et donc, on me demandait de respecter des lois qui étaient contre moi. Alors, comment pouvez-vous les respecter ? À la fois, je dirais, vous ne pouvez pas les respecter du point de vue rationnel, mais vous ne pouvez pas les respecter viscéralement, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinairement vicieux de vous demander de respecter une loi qui vous détruit.
Alors, les événements politiques se succèdent. Le roi Carole, on l'a vu, avait commencé déjà à prendre quelques initiatives, mais il n'était pas, nous le disions lors des épisodes précédents, il n'était pas foncièrement hostile aux Juifs. Il s'en est servi politiquement. Mais là, carrément, les choses changent. Le roi Carole démissionne et le gouvernement antisémite en place instaure ce qu'on peut carrément appeler une dictature.
Oui, c'est-à-dire, ça a pris un certain temps. C'est-à-dire, il y a eu d'abord la déclaration de la guerre. Et ensuite, disons, la pénétration plus profonde de l'Allemagne, les victoires contre les alliés en Occident et la pénétration de l'Allemagne dans l'Europe de l'Est. Et donc, il remplace le roi Carole par son fils et les gardes de fer, en même temps que l'armée, viennent au pouvoir. Et là, on se trouve en plein régime fasciste, national-socialiste.
Est-ce qu'il y a l'exode à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut parler d'exode ?
Non, il n'y en a pas d'exode à ce moment-là. La Roumanie était, comme je dis, dans la guerre, mais pas en guerre, c'est-à-dire faisait partie de cette alliance fasciste, mais n'était pas encore en guerre. La seule chose que les Juifs essaient à ce moment-là, c'est de partir en Israël. Et alors là...
Beaucoup partent ?
Non, ils ne partent pas beaucoup, puisque d'une part, on trouvait difficilement des bateaux pour partir, et puis il y a eu un bateau qui a échoué dans les détroits. Et deuxièmement, comme vous savez, les Anglais avaient une politique très restrictive en ce qui concerne les certificats, hein, pour partir en Palestine. Donc, on était, comment dirais-je, coincé, prisonnier, otage.
Vous le disiez la dernière fois également, il existait des organisations sionistes très fortes en Roumanie.
Oui, il existait des organisations sionistes très fortes, mais qu'est-ce qu'elles pouvaient faire ? Si vous voulez, elles pouvaient simplement organiser soit la population, ce qu'elles ont fait, soit essayer avec l'agent juif de trouver des moyens de transporter des gens. Mais il y a eu très très peu de départs.
Votre famille voit en Bucarest un refuge possible. Nous en parlons juste après ceci.
El rezone ha
Alors le ton nostalgique et à la fois enjoué de Doudou Fischer va bien avec cette période, parce que c'est presque une page qui va se tourner. C'est le départ vers Bucarest de votre tante Anna. Vous demeurez encore un peu en Bessarabie avec votre père.
Alors dans cette année 40, il se passe plusieurs choses qui m'ont beaucoup marqué par la suite. D'abord, ce départ de Bessarabie. Mon père vivait entre Bucarest et Bessarabie. La période, déjà, c'était la guerre, toutes les choses devenaient fluides et incertaines. Et alors, c'est le pacte germano-soviétique et les Roumains décident les Russes demandent aux Roumains de céder la Bessarabie et le nord de la Bucovine, puisque c'était suivant la lettre du pacte germano-soviétique. Et à ce moment-là, beaucoup de Juifs se trouvaient entre deux feux ou entre deux choix. Les uns qui sentaient déjà le nazisme approcher et qui pensaient qu'il fallait en partir vers la Bessarabie, la Russie, parce que comme ça on serait sauvés. Et d'autres, des réactionnaires comme mon père, qui pensaient surtout pas rester avec les Rouges. Et là, il y a eu une sorte de... une des plus grandes luttes entre mon père et moi, parce que moi je voulais rester, puisque j'étais devenu communiste, et je le raconte dans ma vie comment j'ai été recruté dans le parti communiste à ce moment-là.
Pour nos auditeurs, je précise simplement qu'on en parlera dans le prochain épisode.
Oui. Et donc, on quitte la Bessarabie. Et ça, c'est pour moi, c'était une très très grande rupture, parce que je me suis toujours senti attaché à ce pays. Et donc à Bucarest, à peu près en même temps, ça se passe à peu près à la même époque, il faut que je fasse quelque chose, j'arrive à Bucarest et on s'installe dans ce qu'on appelle le quartier de Kalavakaresh, qui était à peu près le ghetto, le quartier juif de Bucarest.
Et vous habitez chez Anna?
Oui, chez ma tante. Et donc, c'est la première fois que j'habite dans un ghetto juif, si on peut dire, que j'habite uniquement avec des juifs. C'était une sorte de découverte. C'était une sorte de découverte pour moi, cette plongée dans un monde purement juif. Et donc, je m'inscris au lycée, conformément... parce que les Juifs, malgré les lois raciales, puisqu'on était roumains, puis je me souviens pas exactement, je pouvais m'inscrire au lycée. Je me suis inscrit au lycée, mais au lycée industriel, puisque j'avais promis à mon père, si vous vous souvenez,
de devenir ingénieur naval.
Et donc, je m'inscris à ce lycée, ce qui représentait pour moi un grand changement. Il s'agissait d'apprendre un travail manuel, c'est-à-dire travailler dans les ateliers. Je m'inscris donc pour un stage mécanique. Et c'est là, pour la première fois, que je rencontre des Roumains, des Roumains, bien sûr, puisque on était très peu de... Je pense qu'on était... Dans mon souvenir, on était 3 élèves juifs dans cette classe. Et donc, la première fois, je vis avec des Roumains, je rencontre et je me fais des amis. Et ça, c'est le deuxième événement, puisque je commence à voir le monde roumain, à la fois de l'intérieur et à distance. Et de ce lycée, comme je le rencontre, je serai expulsé en automne 40.
Mais clairement, l'antisémitisme est là, même au sein du lycée.
Ah oui, il est là, il est toujours là. Mais j'essaie de l'écrire, il est en toi. Tantôt, il est exprimé, agressif. Tantôt, l'antisémitisme crée une sorte de curiosité pour les Juifs et on aimerait qu'on en parle moins, qu'on soit moins visible, etc. Et en même temps, le Juif est une inconnue. Est une inconnue pour les autres.
Si vous nous parliez de Grégoire.
Ah oui, Grégoire, c'était donc ce qu'on peut appeler un garçon de bonne famille, qui était bon vivant. Et lui, justement, c'était un garçon qui avait une sorte de grande curiosité pour les Juifs. Alors, il y a quelque chose qui nous réunit, et puis on parlera peut-être, c'est la taille. Nous étions grands.
Hein. C'est les mots croisés aussi.
C'est les mots croisés aussi. Mais en fait, je pense que la taille a joué un rôle dans nos relations. Et donc, nous sommes devenus de sorte d'amis de plaisanterie, si on peut dire. Pas sur des problèmes sérieux, par cette curiosité qu'il avait de moi et moi que j'avais de lui, hein, puisque c'est pour la première fois que j'entrais, si on peut dire, entre guillemets, dans l'intimité de quelqu'un, d'un Roumain. Hein. Et donc, nous parlions, il voulait me connaître, il voulait savoir ce que je suis, et en même temps, comme on était déjà des garçons assez grands, j'ai participé, si vous voulez, un peu à sa vie, puisqu'il avait une vie féminine assez variée. D'ailleurs, c'est très important de la vie roumaine, cette liberté, ces relations des hommes et des femmes, qui sont moins empreintes d'interdits que même dans les pays occidentaux. Et c'est lui aussi, c'est par lui, par la suite, que j'ai connu une jeune femme qui est devenue assez importante dans ma vie après la guerre. C'est aussi l'année où j'ai, pour la première fois, j'ai cessé d'être vierge. Je suis devenu l'ami d'une femme qui était plus âgée que moi et qui était une amie de mon père, et c'est elle qui m'a ouvert, je pense, la vie de l'amour, la vie de l'érotisme, et je le suis toujours très reconnaissant de l'avoir fait.
Alors nous parlerons de Doré lors de notre prochain épisode. Je voudrais simplement qu'on revienne sur cette année au lycée technique, car en fait, vous allez être rayé des listes au bout d'un an.
Oui. Alors c'était très difficile pour moi parce que je n'avais jamais travaillé de mes mains. Et donc le lycée technique demandait à la fois une formation scientifique assez poussée. Je n'avais pas de problème parce que j'étais très bon en mathématiques et je pense en physique. Aussi les langues, puisque je parlais à ce moment-là l'allemand, un peu le français, le latin. Je ne le parlais pas, je connaissais le latin. Mais aussi, surtout, apprendre un métier. Et je dois vous dire, maintenant je suis physiquement plus fort que je l'étais à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, j'étais assez maigre. Et je ne sais pas pourquoi, soit parce que je poussais très vite, ça me demandait un effort énorme de travailler dans ce lycée. Où, disons, à la fois... je sentais toujours cette curiosité, cette menace, donc on se sentait très très mal à l'aise. On ne pouvait pas sortir en dehors de ces deux amis, je n'en avais pas d'autres. Et en même temps, le corps professoral qui n'était pas très, très sympathisant, très très... avec notre présence dans ce lycée, parce qu'on pensait que les Juifs, après tout, ils ne font pas du travail manuel.
Eh bien, nous nous retrouvons avec l'amour dans le prochain épisode.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.